Je voudrais commencer le sermon aujourd'hui avec une question. Avez-vous perdu quelque chose récemment? Avez-vous perdu quelque chose récemment? J'ai une petite anecdote personnelle à partager avec vous, mais je voudrais avant vous assurer que ce n'est pas l'objectif de mon sermon, cette anecdote. L'autre jour, il faisait déjà très tard, et presque tous les jours, je valide ou je vérifie que voilà, certaines choses sont faites avant d'aller se coucher, que certaines choses sont faites. Par exemple, je vérifie que les portes sont fermées, verrouillées pour la nuit, les portes de la voiture, des choses comme ça. Des petites tâches, mais j'étais amené à chercher mes clés. Mes clés avec la petite manette qui permet la fermeture de la voiture depuis la maison. On peut le faire facilement et avant de se coucher ou quand on pense que c'est pas fait. Et je cherchais ces choses parce qu'il y avait aussi les clés pour le bureau de poste, pour d'autres choses également. Puis je me suis mis à chercher mes clés un peu plus. Après, j'ai cherché dans les endroits où d'habitude j'essaie de les laisser parce que on devient plus âgé et on commence à oublier quelque chose de temps en temps, n'est-ce pas? Ça peut arriver. Non, mais de toute façon, ça facilite la vie quand même si on les met quelque part pour ne pas les perdre dans la maison, par exemple. Et moi, j'ai quelques endroits, j'ai vérifié ces endroits. Et puis, quand je ne les ai pas trouvés dans ces endroits-là, j'ai décidé de demander à Madame Harper, est-ce que tu as vu mes clés récemment? Et j'ai demandé parce qu'elle était déjà au lit. Mais moi, ça m'a inquiété de ne pas pouvoir trouver mes clés parce que, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas juste la clé pour l'auto. Il y a d'autres choses, la clé pour la maison. Et puis, j'avais des idées qui me sont venues à l'esprit comme, oh, je suis sorti hier avec les enfants, j'ai joué dans la neige après avoir vérifié le courrier dans la boîte à lettres. Et j'ai joué avec eux et je me souviens que dans mon jacket, il y a une poche qui s'ouvre de côté. Je les ai mis dedans, je les ai mis dedans de temps en temps. Et on est tombé, on a roulé dans la neige et on s'est bien amusé. Et puis, l'idée m'est arrivée, est-ce que en ce moment-là, dans le champ un peu loin de chez nous, j'aurais pu perdre les clés et puis j'aurais pu laisser les clés dans la neige. Je me préparais pour retrouver le même endroit. C'était tard dans la nuit, il faisait froid, mais avant d'aller se coucher, j'avais l'intention au moins d'aller valider que je n'avais pas laissé les clés dans le champ à côté de chez nous. C'est quand même une petite marche. Je me préparais, je faisais ces choses, et puis j'ai entendu la voix de ma femme. Chérie, je les ai trouvés, ils étaient dans mon sac, je ne sais pas comment ils se sont trouvés là-bas, mais les clés, voilà. Donc, je me suis dit, oh, c'est très bien parce que j'avais déjà mes bottes de neige et j'avais déjà préparé avec les lampes d'aller dans la neige pour chercher dans cet endroit où je jouais avec les enfants. J'étais très heureux parce qu'elle a fait l'effort de se mettre debout, de sortir de son lit très confortable et d'aller chercher mes clés. Et pour elle, c'était un choc parce qu'elle ne savait pas que les clés se trouvaient dans son sac. Mais au bon moment, elle a comblé le besoin de son mari dans cette façon. Elle était là pour moi, elle a pensé à moi et mon stress lié à ça, à la situation. Et ça m'a fait penser au fait à quelque chose de plus sérieux. Cette anecdote me permet de vous dire quelque chose qui est vrai. Une vérité qui devrait nous soulager, réconforter et encourager. La vérité que je ne dois pas vous apprendre aujourd'hui, mais que je suis poussé à partager avec vous aujourd'hui, c'est celle-ci. Dieu est capable de remplir le vide dans notre vie. Si nous avons senti déjà que nous avons perdu quelque chose, Dieu est capable de remplir le vide, de combler le vide, on peut dire. Dieu est capable de combler le vide dans notre vie. Dans ce cas-là, je vous ai parlé d'une anecdote concernant mes clés. Si j'avais perdu vraiment mes clés, j'aurais quand même vécu encore quelques jours. Ma vie n'était pas en question. Mais jusqu'à quel point est Dieu capable de combler le vide dans notre vie? Comme je vous ai dit, c'est un exemple assez simple de perdre les clés. Mais quand nous considérons cette vérité vis-à-vis de nos besoins physiques, quand nous considérons cette vérité vis-à-vis de notre santé, quand nous considérons cette vérité dans ce qui concerne nos relations interpersonnelles et la vie spirituelle, c'est par là que ça devient très sérieux, cette vérité. Dieu est capable de remplir le vide, de combler le besoin dans notre vie. C'est une phrase simple, mais c'est très puissant quand on l'applique à plusieurs domaines de la vie. On sait, et on le dit souvent, Dieu est tout puissant. C'est quelque chose que nous savons tous. C'est quelque chose qui, pour nous, n'est pas en doute. Mais quand on réfléchit à cette puissance, quand on réfléchit à ce qui est derrière cette phrase, il y a beaucoup de sens dans cette vérité qui semblerait très simple. On lit dans la Bible que la création déclare la gloire de Dieu. On n'a qu'à ouvrir les yeux et regarder autour de nous et on voit des miracles vivants. On voit l'univers, il nous permet avec nos yeux de contempler les étoiles, les astres loin de chez nous et de contempler la grandeur de cet univers. Il nous permet de contempler les complexités de la vie aussi. La vie de la nature, la vie humaine, la pensée humaine, le fait que les enfants grandissent et deviennent adultes, toutes sortes de choses, ce sont des miracles devant nos yeux que nous sommes capables d'observer et toutes ces choses rendent gloire à Dieu si nous le permettons. Il déclare la gloire de Dieu, mais malheureusement, peu aujourd'hui reconnaissent que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Si vous voulez, dès la création, et on peut commencer à se reporter en Genèse, mais dès la création, Dieu a pré-rempli le besoin ou pré-rempli le vide. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? Avant la création d'Adam et Ève, Dieu avait déjà mis la création en place pour accueillir l'homme et la femme, pour qu'ils puissent multiplier sur la terre. N'est-ce pas incroyable que sa préparation, c'était pour le summum de la création qui est l'homme, fait à l'image de Dieu même. Faite à l'image de Dieu. Ça souligne l'importance de la création humaine. On n'est pas censé de louer du bétail, de penser que les éléphants vaut la louange, de penser que la nature, c'est ça qu'il faut louer, que Dieu se trouve dans la nature, dans les arbres, dans les animaux. ce sont des choses, des idées païennes qui sont une distraction de ce qui est réel. Et en même temps, ça fait, malheureusement, ça sape, ça enlève l'importance de la création de l'homme. Si on met un animal à côté d'un homme et on dit que pour préserver cet animal, il faut tuer un homme, qu'est-ce qu'on va choisir? Ben, ça dépend d'une perspective, n'est-ce pas? Certains sont prêts à dire que la vie d'un animal et la vie d'un homme vaut la même chose, valent la même chose. Ils sont prêts à dire ça aujourd'hui et depuis longtemps. Mais nous le savons, frères et sœurs, que Dieu a créé toutes choses et Dieu est derrière toutes choses et nous louons Dieu, non pas la création. On ne fait pas l'erreur de louer la création parce qu'on reconnaît la puissance de Dieu en regardant la déclaration de sa gloire dans la création. Toutes choses ont été créées en lui et par lui. Et puis, nous voyons ici, en Genèse chapitre 1, nous voyons ici ces préparatifs pour la création de l'homme. Est-ce que vous le voyez comme ça? Est-ce que vous le comprenez comme ça? Comme ce sont toutes ces choses que Dieu a fait afin de préparer la création de l'homme. Je n'ai pas besoin de tout lire ici, mais juste pour vous faire penser, dès le départ, il dit, verset 3, « Que la lumière soit, et la lumière fut. » Puis au verset 6, « Qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. » Et puis voilà. Et puis verset 9, « Que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. » Et cela fut ainsi. Et puis, verset 14, « Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. » Et puis, verset 20, « Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. » Et puis, continue. Et puis, verset 24, « Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce. » Et puis, nous arrivons maintenant au verset 26, « Faisons l'homme à notre image. » Ce n'est pas par coïncidence que ce fut la dernière chose avant le repos dans les jours de la création. Ce n'est pas par accident. Dieu a démontré sa capacité de combler le besoin, d'être celui qui remplit le vide. Il a tout pensé avant de créer. Tout était parfait dans sa planification, y compris le plan du salut. Et nous avons le plaisir aujourd'hui, la bénédiction, de connaître ce plan de salut et le fait que nous en faisons partie aussi. Mais si nous considérons que dès le départ, dans le jardin d'Éden, Dieu avait mis en place tout ce qu'il fallait pour l'homme physiquement et un plan de salut pour s'occuper de ses besoins spirituels à venir et qu'il avait toujours besoin de faire, mais que chaque étape soit liée au salut, alors nous considérons jusqu'à ce point-là comment Dieu est tellement puissant. Il est capable, et je le répète, de remplir le vide dans notre vie. Les besoins physiques, les besoins de santé, les besoins dans les relations interpersonnelles, les besoins spirituels. Et ce n'est pas un accident. Ce n'est pas non plus un accident que Dieu a décidé d'appeler quelqu'un comme Abraham, comme un exemple. Considérons Abraham dans Genèse chapitre 12. Abraham, dans plusieurs aspects de sa vie avec sa femme Sarah, Abraham nous montre dans plusieurs façons Le fait que Dieu est capable de combler le besoin, de combler le vide, de remplir le vide dans la vie des hommes. Est-ce que vous avez déjà compris, en étudiant la vie d'Abraham, que sa vie sert pour nous comme un exemple de la puissance de Dieu? Je crois que ça vaut une explication. Si vous compensez avec Genèse chapitre 12 et le verset 1, vous allez me dire peut-être, c'est Dieu qui a créé le vide dans la vie d'Abraham en disant « quittez ton pays ». Mais c'est vrai, mais il l'a fait bien exprès, avec un plan déjà conçu. Chapitre 12 et le verset 1, l'Éternel dit à Abraham « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je te ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Donc, on peut me dire, oui, c'est Dieu qui a créé une sorte de vide en disant qu'il fallait tout quitter pour le suivre. Mais c'était avec le but de prouver que c'était lui qui était capable de remplir bien plus que ça, pas simplement remplir un vide, mais dépasser le vide avec beaucoup de bénédictions. Il a fait exprès pour montrer à Abraham et à nous tous qu'il a la capacité de faire ces choses, si on fait confiance en lui. Même au verset 3, « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » C'est une grande promesse, n'est-ce pas? Abraham avait accès à des promesses de Dieu. Il avait quitté, il a quitté son patrie, comme Dieu l'a demandé de faire, mais en même temps, devant lui, il avait des promesses de fait. Il avait des promesses de l'Éternel et il songeait, il pensait, il croyait à ces promesses. Il croyait à celui qui l'a appelé. Paul, pas seulement croire en lui, mais il a cru ses propos, ses promesses. Nous sommes capables de croire à Dieu sans réfléchir aux grandes promesses qui sont devant nous. Et même dans le livre de Hébreux, l'épître aux Hébreux, nous trouvons en Hébreux 11 l'exemple d'Abraham. Nous n'allons pas y reporter tout de suite, mais vous, peut-être vous le connaissez déjà. Dans la liste de ceux qui sont appelés ceux de la foi, ceux qui avaient la foi sont... C'est quand même Abraham qui est considéré le père de la foi même. Je vous donne quelques exemples de comment, ils sont déjà là, mais de comment Dieu a rempli le vide dans la vie d'Abraham pour nous faire penser, pas seulement à une chose ou deux, mais sa grande capacité de remplir le vide dans n'importe quel manque que nous pourrions avoir dans la vie. Genèse chapitre 15, juste une page de plus. Le verset 1 à 6. Donc, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, que me donnerais-tu? Je m'en vais sans enfant. » Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité. » Ah, il sentait un vide dans sa vie, n'est-ce pas? « Tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. » Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. T'as rien du tout comme héritier. Moi, je peux pas simplement remplir le vide, mais voilà comment je peux dépasser le vide avec l'abondance. Dieu est capable non seulement de remplir le vide, mais de produire en nous et autour de nous l'abondance. L'objectif de notre vie chrétienne, ce n'est pas de vivre à plate, de ne pas manquer de rien, mais d'être reconnaissant envers Dieu que lui, il nous bénit davantage. Il nous bénit d'abondance et que ses promesses représentent l'abondance qui dépasse notre capacité physique. Ça a commencé ici avec une promesse incroyable que Abraham était à peine capable de comprendre. Mais il a mis dans le cœur de l'homme de contempler ces choses, n'est-ce pas? Donc, Dieu nous a créés avec cette capacité d'imaginer que ces étoiles représentent l'avenir, que ces étoiles représentent sa postérité et que nous pouvons faire partie de ces choses. C'est incroyable. Abraham eut confiance en l'Éternel, verset 6, qui le lui imputa à justice. C'est une petite phrase de nouveau. Abraham eut confiance en l'Éternel. Encore une fois, ça vaut la réflexion, n'est-ce pas? Ça vaut du temps d'introspection sur notre compréhension. Est-ce que nous faisons confiance complètement en l'Éternel? Je sais que plusieurs d'entre vous, comme nous tous, nous sommes passés par des épreuves. Et c'est pas dans les jours d'abondance que nous pouvons comprendre cette phrase dans la meilleure façon. C'est dans notre période de manque, de souffrance, de douleur, de perte. J'ai commencé le serment en demandant « Est-ce que vous avez perdu quelque chose récemment ?» Il y a bien des choses dans la vie que nous pouvons perdre qui valent beaucoup plus que des clés. Mais ce que je voudrais vous souligner aujourd'hui, c'est qu'il faut avoir confiance en lui. Il faut avoir confiance comme Abraham eut confiance en l'Éternel et nous avons accès à l'abondance. L'abondance qui dépasse cette vie physique. On va continuer en Genèse 17. Genèse 17, avec un petit exemple ici. Dans le chapitre ici est mentionné l'alliance entre Dieu et Abraham. Mais qu'est-ce qu'il dit au verset 15? Dieu dit à Abraham, Genèse 17, verset 15, « Tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, de peuples sortiront d'elle. » Wow! Il n'avait pas d'héritier et maintenant il commence à comprendre, j'espère, quand on est mentionné des nations, des rois, du peuple, l'idée de sa descendance qui fait partie de cet avenir pour ce qui deviendra Israël. Donc non seulement il a promis un fils à Sarah, mais il a promis des nations. Genèse 23, dans un temps difficile dans la vie d'Abraham, lorsqu'il a perdu sa femme, il est écrit ici, Genèse 23, verset 1, « La vie de Sarah fut de 127 ans, telles sont les années de la vie de Sarah. » Donc, ils ont passé une vie ensemble. Et l'Éternel avait quand même gardé sa promesse en lui donnant son fils Isaac, n'est-ce pas? Par Sarah. Verset 3. Abraham se leva, de devant son mort, et parla ainsi au fils de Heth. Je suis étranger et habitant parmi vous, donnez-moi la position d'un sépulcre chez vous, pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. Il avait perdu sa femme, cherchait un sépulcre. Quelque chose assez direct. Les fils de Heth répondirent à Abraham, écoutez ce qu'ils disent, en lui disant, écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays, devant les fils de Heth. Il leur parla ainsi, « Si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte de devant mes yeux, écoutez-moi et priez pour moi, Ephron, fils de Socar, de me céder la caverne de Macpéla, qui lui appartient à l'extrémité de son champ, de me la céder contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcréale au milieu de vous. » Quelle est la réponse au verset 10? Ephron était assis parmi les fils de Heth, et Ephron, le Héthien, répondit à Abraham en présence des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. « Non, mon Seigneur, écoutez-moi! Je te donne le champ et je te donne la caverne qui y est. Je te les donne aux yeux des fils de mon peuple. Enterre ton mort. » Et on connaît l'histoire. Finalement, ils étaient d'accord pour vendre ce sépulcre. Mais ce que je voudrais souligner ici, c'est que Dieu l'a donné. Dieu l'a donné. Je lui ai donné ce qu'il fallait, ce qu'il manquait. Il manquait un sépulcre. Il a donné un sépulcre et bien plus que ça, un endroit pour des générations après. Donc, c'est intéressant, un petit exemple, peut-être moins connu. Mais moi, je l'ai. J'entendais dans ces phrases un respect pour Dieu et quelqu'un qui avait compris la relation entre Abraham et son Dieu. Que ça fut un exemple pour eux. Maintenant, nous pouvons passer plus de temps. Mais j'ai juste un exemple direct à partager avant d'aller dans une autre partie du serment. Genèse 25, versets 7 à 8. Des fois, on ne pense pas à ces bénédictions comme des bénédictions, mais ce sont des bénédictions pareilles. Genèse 25, versets 7 à 8, encore quelques phrases assez simples. Mais si vous considérez ça comme une bénédiction, vous allez comprendre ce que je veux dire. Dieu comble le besoin. Dieu nous est capable de nous bénir. Donc, verset 7, chapitre 25. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. N'est-ce pas une bénédiction? On ne peut pas vivre pour toujours dans ce corps physique, mais d'avoir une heureuse vieillesse, d'être rassasié de jours, c'est une bénédiction envers ceux qui craignent de Dieu. Pour moi, ça a toujours touché mon cœur de lire ces versets très simples à propos de cette bénédiction souvent pas considéré comme important aux yeux de tout le monde. Mais dans toutes ces promesses, à Abraham, envers Abraham, Dieu a tenu parole. Maintenant, on va passer quelques siècles, on va passer quelques événements très importants et on va sauter plusieurs livres bibliques jusqu'au livre de Néhémie. Néhémie, chapitre 9, où nous trouvons vraiment une prière qui, je dirais que c'est essentiel dans la compréhension de ce que Dieu a fait pour son peuple. C'est l'un des résumés les plus intéressants pour comprendre jusqu'à quel point Dieu est capable de combler le vide, de combler le besoin de n'importe qui. Vous vous souvenez que Dieu a pris une relation étroite avec Israël jusqu'au point de dire que c'est comme sa femme, que Israël était comme sa femme, n'est-ce pas? Et pour nous aujourd'hui, il y a un parallèle, parce que l'Église est comme la femme pour celui qui reviendra, Jésus-Christ, en tant que roi des rois. Donc, c'est une image, c'est un symbole, mais ça, ce que ça nous permet de faire, c'est de comprendre l'amour et le fait que Dieu avait toujours l'intention de remplir le vide dans la vie de son peuple. Néhémie, chapitre 9. Néhémie, chapitre 9. Et nous allons commencer au verset 5. Ceci me touche aussi. C'est une prière qui est très intéressante. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le fait que c'est tellement de choses qui sont résumées ici dans Néhémie chapitre 9. Tellement de choses, tellement, on peut le prendre tous comme ça, tellement d'interventions de Dieu dans l'histoire de son peuple. Néhémie chapitre 9 et le verset 5. Ça commence avec le jeûne qu'ils ont fait pour confesser les péchés d'Israël au début du chapitre, mais plus dans le contexte ici. Et les Lévites, au verset 5, Josué, Kadmel, Bani, Hashmina, Shereba, Hodja, Shebana et Pathashaja, dirent ceci: levez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu, d'éternité en éternité. Et c'est intéressant que nous avons une proclamation. Ce n'est pas vraiment une prière, mais c'est une proclamation que tout le monde est en train de faire. C'est une façon de louer Dieu, c'est de se souvenir de toutes ses bénédictions du passé. Maintenant, que l'on bénisse ton nom glorieux, qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. Wow! C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux t'adore. C'est toi, Éternel Dieu, qui as choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu trouveras son cœur fidèle devant toi, tu fis alliance avec lui et tu promis de donner à sa postérité le pays des Canaanites, des Héthiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Jébusiens et des Girgaziens. Et tu as tenu ta parole, car tu es juste. Il a tenu parole. C'est dans l'époque de Néhémie que les gens se rendent compte que Dieu a tenu parole. Et ça fait maintenant partie de leur histoire, de leur nation. Tout est enchaîné, n'est-ce pas? Tout est enchaîné, tout est connecté ici. Maintenant, on va continuer un peu plus avec le verset 9 à 15. Tu vis l'affliction de nos pères en Égypte et tu entendis leurs cris vers la mer Rouge. Tu opéras des miracles et des prodiges contre Pharaon, contre tous ses serviteurs et contre tout le peuple de son pays, parce que tu savais quelle méchanceté ils avaient traité nos pères. Et tu fis paraître ta gloire comme elle paraît aujourd'hui. Tu fendis la mer devant eux, et ils passèrent à sec au milieu de la mer. Mais tu précipitas dans l'abîme comme une pierre au fond des eaux ceux qui marchaient à leur poursuite, les Égyptiens. Tu les guidas le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu descendis sur la montagne de Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. Tu leur fis connaître ton saint sabbat et tu leur prescrivis par Moïse, ton serviteur, des commandements, des préceptes et une loi. Tu leur donnas du haut des cieux du pain quand ils avaient faim. Et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif. Et tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. C'est rempli d'exemples de l'intervention de Dieu dans l'histoire de ce peuple d'Israël. C'est un rappel en même temps que nous sommes dans le besoin, que notre besoin ultime, c'est Dieu. Nous pouvons penser que nous sommes dans le besoin en manque d'argent, que nous sommes dans le besoin en mauvaise santé, que nous sommes dans le besoin d'être tout isolés sans être mariés. Nous sommes isolés et tout seuls. Ce sont des besoins humains, ce sont des besoins qui existent, mais au-dessus de tous, c'est notre besoin de Dieu. Parce que Dieu est capable de remplir le vide dans notre vie. Jésus-Christ, quand il marchait sur la terre, cherchait à combler le vide dans la vie des gens qu'il voyait autour de lui. Le besoin. Il voyait les malades, les sourds, les muets, les sourds-muets, les aveugles, ceux qui souffraient de lépreux, toutes sortes de besoins. Et qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a dit à ces personnes, un jour, vous allez dépasser ces choses et vous allez passer une vie de souffrance maintenant, et même si je suis là, je vais vous laisser souffrir. Non, ce qu'il a fait, c'est qu'il a guéri des personnes droite à gauche, l'un après l'autre, avec des miracles pour combler le vide, pour répondre à la souffrance dans leur vie. À travers les évangiles, nous en avons plein d'exemples. Donc, il suffit de prendre, par exemple, l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu. Et il suffit de lire les sous-titres, si vous en avez, dans votre Bible. Ils sont très nombreux. Et ceci est bien sûr un sujet d'étude biblique pour nous tous, de comprendre jusqu'à quel point Jésus a comblé le besoin, qu'il a répondu à ceux qui avaient confiance en lui, qui demandaient à lui la guérison. Et ce qu'il a fait, c'était juste une partie qui est préservée dans les Écritures. Les livres ne sont pas capables de contenir tout ce qu'il a fait. Mais il suffit de regarder des sous-titres ici, des quelques rappels de ce qu'il a fait pour guérir des personnes droite à gauche. Vous pouvez le faire et vous pouvez considérer dans les quelques semaines, quelques mois à venir en préparation pour la Pâque, cette vie qui montrer l'amour de Dieu envers nous, qui était une démonstration d'amour et qui comblait le besoin, qui remplissait le vide, que ça soit une maladie, que ça soit un problème droite à gauche, c'est lui qui était là. Même la nourriture, comme Matthieu 14, nous nous souvenons que c'est comme un parallèle même de la manne dans le désert. Et Jésus dit plus tard que c'est lui, le pain du ciel. C'est beaucoup mieux que la manne. Mais quand même, il a multiplié les pains pour 5000 hommes ici. Donc, si on considère Matthieu 14 et le verset 15, le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Donc, les gens avaient faim, il y avait un besoin. Les disciples, dans leur pensée humaine, pensaient, OK, on va les laisser partir, chercher à combler leurs besoins, se rassasier. Mais, verset 16, Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Non, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendait grâce. Puis il remplit les pains, et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Frères et sœurs, s'il avait juste multiplié le pain une fois par 2, ça aurait été un miracle. Ça aurait été assez pour démontrer sa capacité de faire des miracles. Mais ce n'est pas simplement ça qui était l'objectif. L'objectif, c'était de démontrer sa capacité de combler le besoin physique, spirituel, n'importe quel besoin. Donc, si on se perd dans le nombre de poissons et de pains et de gens, c'est pas ça l'objectif de cette histoire. L'objectif, c'est de nous démontrer que Jésus-Christ a répondu à ce besoin. Et c'était une instruction pour ses disciples à l'époque, et c'est une instruction pour nous aussi aujourd'hui. Ça devrait nous faire réfléchir à combien de fois dans notre vie il nous a donné ce qu'il nous fallait. Donc Marc 12 aussi, c'est un exemple que je voudrais juste souligner. J'essaie de découvrir aujourd'hui quelques aspects différents, droite à gauche, parce que on n'est pas concentré juste sur la nourriture, on n'est pas concentré juste sur la santé, on n'est pas concentré juste sur quelque chose. Je voudrais souligner que c'est pour toute chose. Ce n'est pas limité. Ça nous dépasse peut-être, mais il est capable de remplir le vide. Marc chapitre 12, verset 41. Un exemple que Jésus même voulait que ça soit enregistré ici. Verset 41, Marc 12, ça apparaît aussi ailleurs. Mais Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Donc, les gens mettaient l'argent. Ici, plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve et elle y mit 2 petites pièces, faisant 1/4 sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Ça me fait penser à ce que nous avons lu tout à l'heure, que Abraham avait confiance en Dieu. Cette femme avait confiance en sa capacité de remplir, de répondre à ses besoins. Et elle a donné tout ce qu'elle a pu donner, de son nécessaire. Pas juste de son superflu, mais de son nécessaire. Maintenant, 1 Jean chapitre 2. S'il y a des exemples importants à considérer, je pense que celui, c'est l'un des plus importants, c'est dans notre vie spirituelle, C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu. Il a vécu sur la terre et c'était bien pour un objectif particulier. 1 Jean, chapitre 2, verset 1. L'apôtre Jean écrit, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Frères et sœurs, avant, il y avait une place vide dans la cellule de prison où on aurait dû attendre notre mort, notre mise à la mort, comme les gens font sur le death row aujourd'hui, en attendant leur mort. Parce que le prix pour la transgression de la loi, pour le péché, c'est la mort. Il y avait un vide là-bas. Nous étions prévus d'aller dans ce vide pour payer nos péchés nous-mêmes. Notre vie aurait eu le prix, aurait été le prix. Maintenant, Jésus-Christ s'est mis dans le vide à notre place. Il s'est placé pour nous, pour nos péchés, à la place de celui qui a payé sa vie. Il a payé avec sa vie pour nos péchés, lorsque nous étions toujours pécheurs. C'est ça, s'il y a un exemple le plus important, c'est ça qui compte pour le plus. Mais je pense, frères et sœurs, que tous les autres exemples que nous avons vus et balayés aujourd'hui nous ont préparés pour comprendre son amour envers nous et sa capacité de prendre notre place. C'est ça, enfin, l'objectif. Parce que son objectif ultime n'est pas juste de prolonger la vie. C'était très bien pour Abraham de vivre longtemps. Et c'est bien d'avoir une vieillesse très facile, très joyeuse. Mais ce n'est pas la fin, n'est-ce pas? Il y a bien d'autres choses de prévues pour ceux qui font confiance en lui. Maintenant, si on regarde de l'autre côté, nous avons, j'espère, compris sa capacité de combler le vide. Nous avons compris que nous avons tous des besoins. Dans des différentes phases de la vie, ça peut changer. Mais maintenant, de l'autre côté, qu'est-ce que l'homme fait? Qu'est-ce que l'homme fait sans faire confiance en lui? L'homme a tendance à chercher à combler le vide par ses propres efforts, par lui-même. L'homme a confiance en lui-même. Et ça existe dès le départ, n'est-ce pas, avec Adam et Ève, qui ont cru que, en mangeant le fruit défendu, qu'ils seraient sages comme Dieu et qu'ils n'auraient pas besoin d'être soumis à Dieu dans ce sens-là. Donc, l'homme cherche ses propres chemins et par ses propres efforts à combler le vide. Ça me fait penser à moi, quand je cherchais mes clés. Moi, j'étais un peu inquiet. Je cherchais ces clés un peu partout. J'étais pas vraiment perturbé, mais ce que j'ai appris après, c'est que dès que j'avais évoqué le besoin, c'est ma femme qui a prié que les clés soient trouvées. C'est elle qui a demandé à Dieu de combler le vide. C'est pas moi, malheureusement, j'étais toujours dans le réflexe. Mais c'est elle, sans me le dire, c'est elle qui a prié que je puisse trouver mes clés, et ce sont les clés qui ont été trouvées, voilà. Elle a eu le bon réflexe de demander à Dieu de remplir le vide, de nous aider, d'enlever ce stress de moi et de combler le besoin. Donc, c'est ça le réflexe que nous devrions apprendre, n'est-ce pas, frères et sœurs? Matthieu chapitre 6. Il nous enseigne comment prier. Sa vie et son exemple nous enseignent pourquoi prier. Sa vie, son exemple, tout ce que nous avons lu aujourd'hui nous enseigne pourquoi prier Dieu, pourquoi demander à Dieu, pourquoi louer Dieu pour sa capacité de combler le vide, sa puissance. Matthieu chapitre 6 et le verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je m'arrête là. Ce n'est pas le but de notre prière, d'être vus par les hommes. Si nous avons appris quelque chose aujourd'hui, c'est que nos prières sont pour reconnaître et pour démontrer notre foi en Dieu, de combler le vide dans notre vie, que ça soit dans n'importe quel domaine. Je vous le dis, continue, en vérité, ils ont leur récompense, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret, tu le rendras. Encore une phrase assez courte, mais très puissante, n'est-ce pas? En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. C'est intéressant. Avant de nous dire comment prier, il revoit un peu, il explique un peu pourquoi prier. Le but de notre prière, ce n'est pas d'être vu, ce n'est pas de multiplier les vaines paroles, ce n'est pas pour une démonstration de choses, c'est que nous, en priant, nous démontrons envers Dieu notre foi en lui. On pourrait continuer à lire cette prière, mais je pense que vous le connaissez tous. Ça s'appelle la prière modèle, souvent. Mais nous avons besoin d'apprendre cette réflexe, de prier Dieu, de demander à Dieu de remplir le besoin. Il est intéressant, ça continue un peu plus loin, vis-à-vis de nos besoins. Quels sont les besoins les plus importants de la vie? Est-ce que ce sont des besoins physiques ou les besoins spirituels? Pour nous aider à comprendre, Matthieu 6, versets 25 à 26. Matthieu 6, versets 25 à 26. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Intéressant. Ça nous fait réfléchir à ce dont nous avons besoin, en fait, de plus. Comme je vous ai dit avant, c'est Dieu. Nous avons besoin de Dieu, d'une relation étroite avec Dieu. Jacques chapitre 2, dernier passage pour aujourd'hui. Jacques chapitre 2, et le verset 5. Ceci est juste après un exemple de comment on va se comporter envers les autres, de ne pas avoir une sorte de mauvaise pensée envers ceux qui sont pauvres ou ceux qui sont mal habillés, mal vêtus, par exemple, de ne pas faire une distinction dans ce sens-là devant Dieu. C'est même mentionné au verset 4, « Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises ?» Et puis, verset 5, « Écoutez, mes frères, dit Jacques, bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment ? Et vous, vous avilissez le pauvre, n'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? » Donc, je voulais souligner ici notre héritage. C'est une promesse. C'est une promesse qui se résume assez rapidement, mais à cette promesse, nous pouvons bien réfléchir. Et nous pouvons réfléchir, nous pouvons rendre grâce à Dieu pour ses promesses. En ayant confiance en lui et sa capacité de remplir le vide dans notre vie. Dans cette vie, nous allons passer des moments d'abondance. Je l'espère pour tous. Il y a certains dans le monde qui n'ont jamais d'abondance physique. Mais ce que j'ai découvert avec mes voyages en Afrique, c'est que même ceux qui sont en manque physiquement, souvent ils ont une joie d'abondance, de joie que nous n'avons pas dans l'Ouest, dans l'abondance physique. Donc il y a une abondance possible dans cette vie, même pour ceux qui sont les démunis, c'est ceux qui sont les pauvres du monde. Mais nous allons passer par des moments de besoin, où nous avons le besoin, où nous ressentons que nous avons perdu quelque chose, que nous avons besoin de Dieu pour combler le vide. Quand nous passons par ces moments, j'espère que nous allons réfléchir à la vie d'Abraham, à la vie de Jésus-Christ, aux exemples multiples qui existent à travers la Bible de comment Dieu est capable de combler